Il est 7h43, les acteurs de l'actualité sur Europe 1. François Geffrier, vous recevez la secrétaire générale de l'Association des familles homoparentales.
Bonjour Gwendoline Desarméniens.
Bonjour.
Il y a votre engagement associatif et il y a votre vécu. Vous avez eu recours à la PMA il y a 3 ans en Espagne. On peut dire qu'il s'agissait à ce moment-là de faire un bébé toute seule.
Tout à fait. Je suis partie faire un bébé en Espagne, oui.
Et cette loi sur la PMA qui revient aujourd'hui au Parlement pour une deuxième lecture prévoit d'ouvrir la PMA en France aux femmes seules. Dans votre cas, ça aurait pu fonctionner avec cette loi s'il avait existé à l'époque ?
Oui, évidemment. Oui, ça aurait été pour moi beaucoup plus simple d'avoir la possibilité de le faire dans mon propre pays, oui.
Alors, juste pour développer un tout petit peu sur votre histoire, à l'époque, vous avez fait une batterie d'examens en France, puis vous avez fait l'acte final, entre guillemets, de la PMA en Espagne, hein, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Tous les examens préalables ont été réalisés en France. Je suis partie faire ma FIV en Espagne, et puis je suis rentrée, et j'ai été suivie comme toutes les femmes qui sont enceintes sur le territoire français, oui.
Mais vous dites que vous aviez peur que la sécurité sociale française vous rattrape, vous demande de rembourser les examens faits en France. Ça, c'est possible aujourd'hui ?
C'était surtout ce qui est pris en charge des hormones, en fait, qui normalement ne sont pas prises en charge pour les femmes qui n'ont pas de problème de fertilité. Donc oui, ça aurait pu être possible qu'à un moment, la Sécurité sociale me dise « Vous avez eu recours à des hormones auxquelles vous n'aviez pas le droit, oui. »
Vous avez donc aujourd'hui une petite fille qui a 2 ans et demi, qui est née de cette PMA en Espagne.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous lui dites par rapport à son père ? Vous lui dites « Tu n'as pas de papa ?»
Alors je lui explique qu'elle n'a pas de papa, parce qu'un papa pour moi c'est quelqu'un qui s'occupe de vous au quotidien, mais qu'elle a un donneur. Alors je lui explique pas donneur parce que 2 ans et demi c'est un peu petit, mais je lui explique qu'elle a un monsieur qui a bien voulu donner ses graines pour que maman ait un bébé. Et puis le discours il va évoluer plus quand elle va grandir en fait.
Oui, 2 ans et demi là, c'est encore un peu jeune pour expliquer toutes les subtilités. Mais...
Tout à fait.
Et comment est-ce que vous appréhendez la possibilité qu'elle vous demande un jour, je veux savoir qui est, alors si c'est pas mon papa, c'est mon père biologique?
En fait, je lui explique quand même aussi que depuis qu'elle est née, que ça va pas être possible, puisqu'en fait, la loi espagnole n'autorise pas le don connu. Donc, c'est forcément des donneurs anonymes. Donc, ça fait partie de son histoire. Après, oui, ça va être compliqué si elle insiste, mais elle pourra jamais savoir qui est son donneur. Mmh. La loi espagnole fonctionne comme ça.
Alors, c'est l'une des questions soulevées par le débat aujourd'hui. L'anonymat des donneurs de sperme. Le projet de loi en France prévoit qu'à l'avenir, les donneurs de sperme acceptent forcément de voir leur identité révélée à l'enfant, si celui-ci le demande à sa majorité. Vous pensez-vous qu'il faudrait maintenir cet anonymat ?
Non. Non, il faut absolument donner la possibilité aux enfants d'avoir accès à leurs origines s'ils le souhaitent. Donc moi je pense que c'est une bonne chose qu'on lève l'anonymat des donneurs. Après, la problématique de la levée de l'anonymat va être le nombre de donneurs.
Parce qu'aujourd'hui,
qu'est-ce qui va en découler ?
En 2016, on recensait, je crois, 363 dons. Sur une année entière.
Oui. C'est très peu. C'est très très peu. L'accès à la banque de sperme est très compliqué, oui.
Et vous craignez que les donneurs soient moins nombreux encore s'ils doivent donner leur nom et que l'enfant puisse les recontacter à leur majorité?
J'ai un petit peu peur de ça, oui, que du coup il y ait moins de donneurs et du coup ça allonge le délai de pouvoir avoir accès à la banque de sperme. Oui.
Alors aujourd'hui vous êtes en couple avec une femme et ensemble vous souhaitez avoir un enfant par PMA que votre compagne portera cette fois-ci. Vous souhaitez à nouveau aller en Espagne, je crois. Pourquoi ne pas attendre que la loi passe en France ?
Parce que entre le moment où la loi va vraiment passer en France et que on puisse avoir accès à la banque de sperme, sachant qu'aujourd'hui un couple hétérosexuel a quasiment 2 ans d'attente, on a l'horloge biologique qui tourne et ma compagne a 40 ans et ça va pas être possible. Donc si on voit au bout de notre projet et qu'on arrive à avoir un enfant, on ira forcément en Espagne pour des histoires de délai, en fait.
D'accord, c'est pas pour d'autres conditions de la façon dont ça se fait en Espagne et versus la façon dont ça se fait en France.
Absolument pas, c'est juste une histoire de délai. Je préférerais le faire en France et ne pas avoir à faire les choses dans l'illégalité sur les examens. Mais aujourd'hui, pour moi, le délai va être beaucoup trop long en fait.
Et pour cet enfant-là qui naîtra de cette nouvelle PMA, vous lui direz « tu as 2 mamans ?»
Tout à fait. Mais ma fille, elle a une maman biologique et elle a une maman de cœur qui s'occupe d'elle tous les jours. Hein. Donc cet enfant, oui, ce deuxième enfant qu'on aura ensemble aura 2 mamans. Tout à fait.
Que dites-vous de la méthode qu'on appelle ROPA ? Je vais l'expliquer en deux mots. C'est l'implantation chez une femme d'ovocytes de sa partenaire. Il y a un amendement en ce sens qui a été pas soutenu au contraire par le gouvernement, mais qui a été adopté via le rapporteur qui vient de La République En Marche, Jean-Louis Touraine.
Alors, c'est une méthode qui est déjà utilisée en Belgique et en Espagne depuis de nombreuses années et qui était en train de se démocratiser en Espagne. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très chouette puisque ça permet en fait d'avoir un lien encore plus fort avec l'enfant puisque c'est un lien biologique de celle qui va donner ses ovules et un lien qui de celle qui l'aura mis au monde en fait.
D'une certaine façon, il y a deux mamans biologiques.
Entre guillemets, oui, on va dire qu'il y a deux mamans biologiques. Il y a une maman génétique et une maman qui vous met au monde. Mmh. Mais pour moi, je trouve que c'est un joli partage, oui. Je trouve que c'est très chouette.
Les opposants à cette technique redoutent aussi, par ailleurs, que ce soit une première étape vers la GPA, puisque d'une certaine façon, c'est une forme de mère porteuse.
Oui, sauf que c'est... Non, ouais. Alors moi, je suis pour la GPA, donc c'est encore un autre débat. Mais non, je ne dirais pas que c'est de la GPA, mais si vous voulez être très carré, ça va être de la GPA, sauf que c'est de la GPA au sein de votre propre couple, quoi. Mmh. Donc, vous n'êtes pas mère porteuse pour un enfant, pour un autre couple. C'est pour votre propre couple à vous. Donc, je ne mettrai pas ça dans la catégorie GPA, non.
Oui, vous vous dites être favorable à la GPA. Aujourd'hui, c'est la loi sur la PMA qui va changer. Une partie de l'opinion publique, déjà pour la PMA, n'y est pas favorable et craint que ce soit là aussi une première marche vers la gestation pour autrui, les mères porteuses. Est-ce que le débat par rapport à la première lecture et je dirais même par rapport à la loi sur le mariage pour tous en 2013 s'est apaisé de ce que vous en voyez?
Non. Non, moi je trouve que le mariage pour tous a été très dur à vivre pour toute la communauté et ça a été très très violent. J'ai pas du tout le sentiment aujourd'hui que les gens sont apaisés, non. Je peux pas dire ah tiens ça y est c'est rentré dans l'inconscient collectif et maintenant c'est rentré dans entre guillemets la normalité, pas du tout. Je trouve qu'on est encore confronté à énormément de haine, il y a eu énormément de montée de l'homophobie. Je trouve pas que la société se soit apaisée, donc on arrive avec des nouveaux débats qui sont des nouvelles problématiques et je pense que ça va encore être un combat, oui.
Et parmi ceux qui sont opposés à la PMA, à la GPA, il y a ces questions sur la construction des enfants. Pour cet enfant que vous souhaitez avoir, pour votre fille de 2 ans et demi, est-ce que vous pensez que la vie sera aussi simple que pour les autres enfants, de la cour de l'école jusqu'à l'âge adulte?
Oui, parce qu'en fait, c'est sa normalité à elle, en fait, et qu'on lui parle beaucoup et qu'on lui explique beaucoup de choses. Alors oui, elle va être confrontée au regard parce qu'elle a une différence, parce qu'elle a deux mamans.
Verra qu'elle n'est pas dans le même cadre exact que tous les autres.
Oui, mais enfin, aujourd'hui, le cadre exact, c'est quoi? Vous avez énormément d'enfants qui ont été adoptés, vous avez des papas qui élèvent tout seuls leurs enfants parce que les mamans sont décédées ou sont parties, vous avez des mamans qui se sont retrouvées toutes seules du jour au lendemain aussi. Donc aujourd'hui, elle est où la normalité, en fait? Donc chaque enfant a sa normalité et c'est aussi toute cette différence qui fait la beauté de notre société. Donc oui, ça va être plus compliqué, mais parce qu'elle sera différente, parce qu'elle a deux mamans, au même titre que peut-être sa petite copine de classe, et ben elle aura été adoptée. Enfin, c'est ce qu'on essaye d'apprendre à nos enfants, justement. C'est cette différence. Ouais. Alors oui, la société n'est pas gentille, de toute façon.
La société n'est pas gentille.
Avec les enfants, en tout cas. Et puis les enfants, ce n'est pas toujours sympa entre eux non plus.
Exactement. Il y a donc 2300 amendements et 5 jours de débat à l'Assemblée. Merci Gwendoline Desarméniens, secrétaire générale de l'Association des familles homoparentales, invitée d'Europe 1 en direct ce matin. Bonne journée.
Au revoir.